13h sur la CRTV. Le journal Constanzé.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le 13h du jeudi 22 août 2024. Au sommaire de cette édition, rentrée scolaire 2024, l'attrait pour la formation dans le privé et confessionnel. De nombreux parents choisiront encore pour leurs enfants les établissements du secteur privé laïque et confessionnel, et cela malgré le coût de plus en plus élevé de la pension. Dans le dossier du 13h, le secteur privé laïque et confessionnel, une couverture nationale avérée et une offre variée. Inondation à Yagua, à l'extrême nord, plusieurs maisons emportées après les fortes pluies qui se sont abattues dans la ville hier. Le sous-préfet de Yagua et le maire sont descendus sur le terrain pour évaluer les dégâts. Et en sport, le Cameroun décroche son ticket pour l'Afro Basketball Dames Côte d'Ivoire 2025. Les Lions ont encore battu hier la République démocratique du Congo à Kinshasa, 67-50, après leur victoire au match aller à Yaoundé. Bienvenue à tous. D'abord, ce communiqué de presse. Le premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Dion Gouté, représentera le président de la République, son Excellence Paul Biya, à la cérémonie d'ouverture officielle du premier sommet scientifique africain de haut niveau sur l'économie du cerveau, la santé du cerveau et le capital cérébral. C'est ce jeudi 22 août 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé à partir de 15h. C'est signé le directeur de cabinet du Premier ministre, Balungeli Confiance Ebouné. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, préside en ce moment dans son département ministériel la cérémonie officielle de signature de la Convention collective nationale révisée de la manutention portuaire. La présente convention est un événement important qui marque un pas significatif vers l'amélioration des conditions de travail et des relations de travail dans le secteur de la manutention portuaire. C'est l'aboutissement d'un processus mené dans le cadre de la commission mixte paritaire mise sur pied par le gouvernement et les représentants syndicaux de ce département, de ces secteurs d'activité. Le développement du numérique et surtout du leadership féminin grâce au numérique, le sujet est au programme de la troisième édition du Sommet des femmes dans l'arène du leadership qui se tient ce jeudi à Yaoundé. Des jeunes filles et femmes de divers horizons prennent part à ces rendez-vous à l'initiative de la Berla Meridian Group avec le soutien des ministères en charge de la promotion de la femme et de la famille et des petites et moyennes entreprises. Des masterclass leur sont proposées afin que ces femmes saisissent les atouts des TIC aujourd'hui pour impacter leur vie au quotidien. Agnès Sylviane Nzama.
C'est dans une ambiance chaleureuse que les femmes qui influencent le quotidien autour d'elles prennent part à ce troisième sommet des femmes dans l'arène du leadership sous le thème « Femmes leaders, naviguer sur la complexité du leadership dans un monde numérique ». La pertinence de la thématique est relevée par Junior Gloire Bidias, coordonnateur de la Berla Meridian Group.
Il est important qu'elles sachent qu'elles ne peuvent pas s'arrêter à ce qu'elles faisaient par le passé, parce que avec le numérique, on ne sait pas, c'est une femme ou c'est un homme, ce qui importe, c'est les résultats.
Le sommet s'articule autour des masterclass et autres ateliers de coaching et de renforcement des capacités pour développer leur leadership grâce au numérique, explique Amatutu Mouna, présidente d'honneur du rendez-vous.
Il y a un véritable besoin de s'arrimer et de s'aligner sur le digital et encore aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. C'est essentiel et ce genre de sommet appelle les femmes, les jeunes filles de s'intéresser à l'outil et de s'ouvrir.
La promotrice du sommet indique quant à elle aux femmes un nouveau style de leadership qui se veut désormais plus agile. Yenwo Iberla Berta.
La technologie a changé le monde. Il faut être en phase de tout ce qui se passe, créer l'impact et changer le style de leadership et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui.
Cette troisième édition, marquée par la remise des distinctions à des femmes d'impact se veut plus dynamique afin d'exhorter les participantes à prendre le train du numérique pour leur épanouissement.
La coopération entre le système des Nations Unies et le Cameroun à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat est excellente. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre Achille Basile Kintoua a accordé aujourd'hui au coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies, arrivé en fin de mission au Cameroun. Siaka Koulibaly, les deux personnalités ont revisité les différentes feuilles de route, projets et programmes entrepris entre le ministère et l'institution à travers ces différentes agences depuis quelques années. Je vous propose d'écouter Siaka Koulibaly. Au terme de l'audience, il s'exprime au micro d'Augustine Bassam.
Nous avons pu faire un tour d'horizon de la coopération très fructueuse, de l'excellence de la coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Cameroun et partant le département ministériel qu'il dirige. Nous avons entre autres échangé sur ce que nous avons pu faire ensemble sur le développement des petites et moyennes entreprises, y compris les micro-entreprises, mais également aussi dans le secteur de l'artisanat, qui est un domaine très important d'activité et de contribution au développement économique et sociale du Cameroun. Nous avons essayé de regarder toutes les perspectives par rapport aux attributions du ministère, comment le système des Nations Unies pourrait travailler de manière plus efficiente et plus efficace à l'accompagner, par exemple, dans le domaine de la transition de l'informel vers le formel.
C'était Siaka Koulibaly, coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies, arrivé en fin d'émission au Cameroun.
Rentrée scolaire 2024, la page spéciale du journal.
C'est le compte à rebours dans la plupart des établissements confessionnels du Cameroun à plus de deux semaines de la rentrée scolaire. Cette année encore, les réunions ne cessent de se multiplier pour permettre à cet ordre d'enseignement de se hisser toujours dans le hit parade des meilleurs établissements. Bénéficiant d'une couverture nationale avérée et d'une offre de formation de qualité, les établissements confessionnels mettent surtout en exergue l'apport des hommes de Dieu dans la formation des apprenants. Julien Gambi.
L'enseignement confessionnel compte encore cette nouvelle année scolaire maintenir le cap et se hisser dans le hit parade des meilleurs établissements en termes de résultats. D'ailleurs, dans les différents états-majors et dans les secrétariats à l'éducation du Cameroun, l'heure est aux réunions et aux derniers réglages pour une bonne entame des classes. Cette année encore, la feuille de route du succès passe par la discipline, le travail acharné et une pédagogie qui associe à la fois les connaissances livresques, les valeurs morales et républicaines et la crainte de Dieu. Associer les connaissances holistiques aux valeurs évangéliques pour une formation intégrale de l'homme, telle est la clé du succès des établissements confessionnels qui se retrouvent dans les coins les plus reculés de la République. Du fait de la première évangélisation et grâce aux premiers missionnaires protestants et catholiques, la couverture nationale de l'enseignement confessionnel est avérée. Avec en prime la formation d'une élite administrative et religieuse solide et bien formée qui fait la fierté du Cameroun. L'Église étant alter mater, entendez par là mère et enseignante, les hommes de Dieu, grâce à leurs établissements confessionnels, se préparent encore cette nouvelle rentrée scolaire à offrir à la jeunesse camerounaise une formation de qualité couplé des valeurs évangéliques pour le plus grand bien de l'homme et de la société.
Et dans l'archidiocèse de Yaoundé, la clé du succès pour la prochaine rentrée scolaire, comme d'ailleurs pour toutes les années scolaires, passe par la discipline et la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires. Écoutons l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Barga, au micro de Julien Gambi.
Nous pensons que pour que nos enfants réussissent, et dans tous les établissements, il faut une discipline cohérente. Dans nos collèges, on s'efforce de rationaliser le fonctionnement de l'école. Aujourd'hui, les enfants sont intelligents et ils ont accès à des sources d'informations au point qu'on peut même commencer à se demander quelle sera l'école du futur. Donc, ce n'est plus la science qui pose problème, c'est la discipline qui permet à l'enfant d'intégrer les connaissances scientifiques. Il faut bien payer les professeurs, il faut bien encadrer les enfants, il faut qu'ils aient des outils scolaires. Quand le minimum est exigé, on obtient les résultats. Nous voulons effectivement vraiment prendre en main la question de la réhabilitation des infrastructures scolaires pour que nos enfants aient les meilleures conditions d'études.
Les établissements privés et laïcs apportent aussi leur pierre à l'édification d'une jeunesse instruite et cultivée. Selon les statistiques réactualisées du Secrétariat national de l'enseignement privé et laïque, le Cameroun compte à ce jour 388 écoles primaires et 507 établissements secondaires privés autorisés. Et pour réussir son année, sa rentrée scolaire 2024, les parents se ruent vers les crédits scolaires dans les établissements bancaires. Les raisons évoquées sont le coût élevé de la vie, les charges familiales et autres responsabilités. Le crédit scolaire se présente donc pour eux comme un moyen indispensable pour les préparatifs de la rentrée scolaire de leurs enfants. Voici le reportage de Fatimé Bintou Akoum.
Trop de charges avec la vie qui est devenue très difficile. On est obligé de faire recours au crédit scolaire pour pouvoir supporter toutes ces charges-là.
Le recours au crédit scolaire apparaît incontournable pour certains parents en cette période de veille de rentrée scolaire marquée par le coût élevé de la vie.
Trop de problèmes. Un parent, il a d'abord ses charges personnelles, ses enfants. Il a les enfants de ses frères qui n'ont pas les moyens pour pouvoir les envoyer à l'école.
Pour d'autres parents d'élèves, le prêt bancaire vient en appui aux revenus mensuels.
On se rend compte que si on étudie le salaire, on ne pourra pas pallier aux charges. Et il faudrait que les enfants soient à même de commencer normalement la rentrée en ayant tout ce qui était nécessaire. J'attends justement avec le salaire de fin août. Parce que moi, j'ai demandé ça depuis le mois de fin juillet quasiment.
Le coût de l'éducation, la cherté de la vie impose par moment, selon les experts, un recours au crédit scolaire. Martin Djek, analyste financier.
C'est l'inflation. Le coût même de l'éducation, ce n'est plus gratuit comme avant. Et du coup, le niveau de vie est devenu un peu insoutenable, surtout pour ceux qui vivent dans les grands centres urbains.
Le crédit scolaire se présente, selon les cas, comme un moyen qui compense les revenus ou qui pallie une insuffisance financière aux dépenses liées aux préparatifs de la rentrée scolaire.
Et à plus de deux semaines de la rentrée scolaire, les librairies et les espaces marchands sont pour la plupart achalandés. Entre cahiers de stars, ceux avec les dessins animés et cartables de super-héros, en passant par des stylos à billes aux mille couleurs, il y en a pour tous les goûts et chacun y va de sa bourse. De la vie des tenancières, les ventes sont encore timides. Voici le reportage d'Eliane Matsingoum.
Je viens d'acheter rien que le cahier, je n'ai pas l'argent. La semaine prochaine, si j'ai encore un peu d'argent, je monte encore ici, achète les tenues, les sacs.
Michel, mère de famille, vient d'effectuer son tout premier achat de fournitures scolaires dans un espace marchand du quartier Nkwaban à Yaoundé. Ici, le décor est déjà planté en dépit de l'attente de certains manuels encore indisponibles.
Il y a certains livres qui ne sont pas encore sur le marché. Donc certains parents viennent. Ils prennent les livres qu'ils trouvent. Il y a plus la vente dans l'après-midi. C'est plus les livres des anglophones que nous vendons.
Pour le moment, ça ne donne vraiment pas. Parce qu'on peut vendre par jour peut-être même 4 ou 5 paquets de cahiers. Donc ce n'est pas encore trop ça. On se dit que d'ici la semaine prochaine, les ventes vont un peu booster.
À quelques encablures de là, dans une librairie du quartier Essos, les ventes sont encore timides. David, le tenancier, fait l'état des lieux.
Le manuel n'est pas encore disponible. Il y a les nouveaux livres qu'on a mis au programme de la 6e en 3e et à l'école primaire. Peut-être la fin du mois, quand les parents vont toucher, il y a l'affluence.
Certains parents s'y prennent tôt pour éviter les bousculades de dernière minute.
Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'affluence. Je suis venu échanger les livres de première en terminale.
Les commerçants espèrent faire plus de chiffres à partir de la semaine prochaine.
À Douala, l'épreuve de tous les dilemmes pour les parents, le choix de l'établissement des enfants n'est pas toujours facile à opérer, tant les critères liés à la distance, à la qualité des enseignements et ou même les frais de scolarité compliquent l'équation. Suivons ce micro-trottoir de José Gaëtan Tsanga à Douala.
C'est la période des inscriptions dans les établissements scolaires, primaires et secondaires, privés de la capitale économique. Les écoles recrutent de nouveaux élèves. Certains parents approchés pour le choix ou non de l'établissement ont pour premier critère la notoriété de celui-ci.
Personnellement, je commence déjà par étudier le CV de l'établissement concerné, avoir des avis des parents autour de moi et des parents que je connais, essayer d'échanger avec les les encadreurs d'avoir un peu une idée du programme.
Déjà dès la maternelle, j'ai choisi le bilinguisme intégral, ceci pour permettre à l'enfant d'avoir l'avantage sur les deux langues, le français et l'anglais. Mais disons que au secondaire, je vais ajouter une autre langue, notamment le mandarin.
La renommée de l'établissement, la discipline au sein de l'établissement et surtout les résultats.
Par ailleurs, c'est le coût de la scolarité qui est mis en avant.
On se réfère aussi à la pension. Il y a des parents qui sont aisés, d'autres qui ne le sont pas. Bon, un parent moins aisé ne peut pas aller s'inscrire dans un collège que la scolarité est plus élevée. Sinon, il ne pourra peut-être pas réussir à honorer à ses engagements.
Pour d'autres encore, plus l'établissement est proche de la maison, mieux il est.
Si c'est proche de la maison et qu'on enseigne bien, ça m'arrange.
Une chose est sûre, le choix sera opéré avant le 9 septembre prochain, date de la rentrée scolaire.
Rentrée scolaire 2024, c'était la page spéciale du journal.
Vous écoutez le 13h sur le poste national de la CRTV. Il est 13h16. Allons à l'extrême nord avec les fortes pluies intervenues dans le département du Mayo-Dana hier qui ont entraîné des inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Des maisons ont été emportées par la furie des eaux. Le sous-préfet de Yagoua et le maire sont descendus sur le terrain pour une première évaluation de la situation. On fait le point avec Honoré Mbouaki à Yagoua.
Les habitants de certains quartiers de la ville de Yagoua et environ ont les pieds dans l'eau. La nuit a été écourtée par une pluie diluvienne.
Depuis une heure de la nuit, on a été évacué l'eau. Personne n'a passé la nuit en train de dormir.
Notre maison est inondée, tous mes cahiers sont mouillés.
Les maisons sont détruites, les animaux, les chèvres, les poules.
Les eaux venues des villages Djavgadji, Myongoy, Dangchukop et autres se sont déversées dans la mare Gengeng, occasionnant des inondations dans le quartier du Betsou. Le maire Pierre Lirawa est sur le terrain.
Tout ce qu'on peut conseiller, c'est déjà prendre les dispositions. Il ne faudrait pas qu'on assiste à des noyades. Ce problème de nutrition, aujourd'hui, il faut que les femmes préparent.
Les autorités locales s'organisent. Question d'avoir une idée précise et concise sur les dégâts et le nombre des sinistrés. Swaibou Zurumba, sous-préfet de l'arrondissement de Yagoua.
Je suis en contact avec les responsables de la Croix-Rouge au niveau local pour la descente sur le terrain afin de recenser donc ces populations victimes.
Certains sinistrés ont déjà trouvé refuge dans des familles d'accueil à Vada, Gobeissou, Leke et le Grand Toukou en général. La journée s'annonce laborieuse et le ciel reste toujours en alerte. Depuis le quartier du Betsou à Yagoua, Honoré Mbouaké, CRTV.
En culture, c'est ce jeudi à 20h à la salle des fêtes d'Akwa que la légende du Makossa, Toto Guillaume, va souffler sa 69e bougie. C'est à travers un concert inédit qui marquera également près de 40 décennies de carrière musicale de Togi. Retrouvons à Douala notre reporter Franjam qui nous fait déjà vivre les dernières répétitions avant le concert de ce soir.
Un oratorio avec la grande chorale d'hommes de Daïdou, Toto Guillaume entend vivifier Doubelam, une de ses chansons vieille de 44 ans.
Doubelam a été composé en 77. Nous avons initié ce projet de susciter des vocations en ce qui concerne la composition. Et de ce projet, il y a eu des valeurs qui se sont démarquées.
En 69 notes musicales, la portée du concert de la salle des fêtes d'Akwa déclinera en toute harmonie les meilleurs accords du compositeur.
J'ai eu cette intuition de célébrer mes instants de vie que je symbolise par des notes de vie. Tout est régi par la loi de la numérologie.
Pas de hasard si Togi synchronise désormais ses compositions avec le chant choral.
Beaucoup sont surpris de me voir diriger les chorales. J'ai passé ma vie à diriger. Mais aujourd'hui, avec le temps, on est surpris de me voir tenir la baguette. Non, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de l'une de mes cordes.
Le la de la première note sur les 69 sera donné à 20h. Douala, Frank Jam, CRTV.
Ce jeudi 22 août est journée d'hommage à la journaliste et ancienne membre du Conseil national de la communication Suzanne Kala-Lobé, décédée le 1er août dernier des suites de maladie. À l'initiative de la communauté urbaine de Douala, les activités appelant à honorer la mémoire de cette femme engagée ont commencé ce matin à Douala par un investissement humain en vue de marquer son passage à la société d'hygiène et salubrité du Cameroun. Cet après-midi à 15h, une table ronde est prévue sur le thème Suzanne Kala-Lobé, une ville, un engagement, suivi d'une veillée sans corps à 19h au domicile familial à la rue des Roses à Bali. Les obsèques proprement dites débutent demain vendredi avec la levée du corps à 14h à la morgue de la garnison militaire à Douala. Suzanne Kala-Lobé sera inhumée samedi à Bali. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique porte à l'attention de l'opinion publique qu'il préside le vendredi 23 août 2024 à partir de 11h dans la salle des conférences du département ministériel dont il a la charge, la première réunion préparatoire des deux rencontres internationales de football qui opposeront le Cameroun à la Namibie et au Zimbabwe les 7 et 10 septembre 2024. Ces rencontres comptent pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Y sont conviées toutes les administrations partenaires habituellement impliquées, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs ainsi que la Fédération camerounaise de football et le staff technique des Lions indomptables. Il s'agira essentiellement d'examiner toutes les dispositions utiles et nécessaires à prendre en vue d'assurer d'une part la bonne organisation matérielle de la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024 et d'autre part, la préparation optimale et la participation honorable des Lions indomptables aux deux matchs projetés. Ceci conformément aux très hautes directives du président de la République, son Excellence Paul Biya, relative à une meilleure organisation pour de nouvelles victoires de l'équipe nationale fanion de football. Toujours en football, mais football féminin, qualification pour la Champions League, tournoi de l'UNIFA Kinshasa 2024. L'équipe football fille du Cameroun affronte demain le club hôte de la compétition, le tout-puissant Mazembe. Avec 4 points d'avance, les Camerounaises n'ont qu'une seule équation à résoudre, c'est gagner, ce qui ne sera pas du tout facile, dites-vous. Jean Armstrong.
L'équipe football fille pour sa troisième sortie au tournoi éliminatoire de la Ligue des champions féminines de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale de Kinshasa affronte le club hôte, le tout-puissant Mazembe. Ce match est la finale de la compétition. Les deux équipes occupent les deux premières places, 2 points les séparent. Le représentant camerounais, qui a un bilan d'une victoire et d'un match nul, concédé face aux Diables du Congo, a 4 points. Il lui faudra absolument une victoire pour se qualifier au tournoi final de la Champions League féminine. Parce qu'en face, les Corbeaux ont 6 points après 2 victoires enregistrées. L'équipe camerounaise, dont les techniciens disent qu'elle a une bonne organisation offensive et défensive, a un morceau très dur à croquer. Le tout-puissant Mazembe a marqué 11 fois sans en encaisser, tandis que les nôtres ont logé seulement 5 fois le cuir au fond des cages. Les Congolais sont à leur troisième participation à ce tournoi. En 2022, elles se sont hissées en phase finale de la compétition à Marrakech. C'est une formation professionnelle qui regorge en son sein des joueuses d'autres nationalités comme des Ivoiriennes et des Ghanéennes. Après avoir manqué l'édition dernière qui s'est disputée en Côte d'Ivoire, les pouliches du coach Boumedi Lamia veulent signer leur retour dans cette compétition. L'équipe face à ce bulldozer est un poussé. Mais attention, c'est bien David qui avait remporté le combat contre Goliath.
En basketball féminin, le Cameroun va participer à la prochaine édition du tournoi Afro Basket Dames en Côte d'Ivoire. Les Lions ont obtenu leur qualification hier en battant la République démocratique du Congo 67-50. C'était au match retour qualificatif donc qui s'est disputé à Kinshasa. Les Lions étaient sortis vainqueurs de la manche aller sur le score de 75-49. Mission accomplie donc pour le Cameroun. Russell Oriani.
La communion sur le terrain n'en finit pas, les éloges aussi, venus des tribunes. L'enthousiasme est grand, il vient couronner une performance de géant accomplie par les Lions. Tout avait pourtant mal débuté pour les Camerounaises, asphyxiées d'entrée par des Congolaises appliquées. Elles ont concédé le premier carton, 13-17, faisant craindre une éventuelle désillusion. Mais l'équipe a des ressources et du talent, à l'image de Monique Makani, l'arrière de 23 ans, meilleure joueuse du match, a rendu une carte de 15 points, 3 rebonds et 5 passes. Son rendu, cumulé à la vivacité de Suzanne Eben, l'arrière du club local Overdose Obstation, 10 points à son actif a fait basculer définitivement le match, permettant à la sélection camerounaise de s'offrir les 3 cartons suivants, 21-7, 16-10 et 17-16. L'ailier forte Dulcie Fankam avait déjà fait sensation lors de la première confrontation, décimant la défense adverse avec une carte de 15 points, 2 passes et 3 rebonds. Par la force d'un groupe déterminé et conquérant, le Cameroun remporte une victoire décisive dans sa campagne de qualification. Le score de 67 points à 50, ajouté au succès 75-49 lors de la première manche, qualifie les Lions pour la 27e édition du tournoi Afro-Basket Dames. L'histoire s'écrit sans interruption depuis 2007. Elle prive la République démocratique du Congo d'une seconde participation de suite. L'aventure de la team Cameroun de basketball se poursuit à Abidjan en 2025.
Jeux paralympiques Paris 2024, la compétition s'ouvre le 28 août prochain. La Cameroun Paralympic Team poursuit son stage d'acclimatation dans la ville de Poitiers en France. À 4 jours de la fin du stage, le président du comité national paralympique a rejoint la team hier. Pour les 5 parathlètes engagés, l'heure est au dernier réglage. Voici à présent Doris Bati Tatou Ikwe. C'est pour le condensé de l'actualité de la mi-journée en langue anglaise.
Good afternoon. The outgoing interim coordinator of UN systems in Cameroon and the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economies and Handicrafts have revisited the different projects and programs between the institution and the government of Cameroon. Siaka Koulibaly and Achille Basilikene Troua are unanimous that cooperation in the domain of SMEs is excellent. Future endeavors between the United Nations systems and the government of Cameroon will henceforth be tilted towards boosting entrepreneurship and the creation of more job opportunities for the youth. Workers involved in the port handling sector in Cameroon will henceforth benefit from an increase in their wages and advantages. This follows a collective agreement signed between the Employers Association and trade unions of the sector in Yaoundé today. The ceremony at the Ministry of Labour and Social Security was presided over by Minister Grégoire Ouna. Officials of some religious schools in Cameroon say they are more committed to improving on the holistic aspect of educating young Cameroonians in a bid to raise nation builders. Speaking to CRTV less than 3 weeks to the start of a new academic year, the officials argue that a holistic compartment of education plays a key role in the socioeconomic and political stability of a nation. Onto this press release, following the launch of national consultations on the 12th of August in Yaoundé, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futsu, is launching regional consultations with youths on Friday, the 23rd of August, 2024, in Bafoussam, Chief Town of the West, for the purpose of revising the national youth policy initiated by the government of the Republic. And in sports, the under-18 women's basketball team of Cameroon has qualified for the FIBA Women's Afro-Basket 2025 to take place in Abidjan, Cote d'Ivoire. They defeated the Democratic Republic of Congo in a double confrontation in Kinshasa, 75-49 in the first leg game and 67-50 in the second leg, earning them a direct qualification for the 2025 competition. These stories and more will be yours at 3 p.m.
À Avant de nous séparer à retenir de l'actualité, de nombreux parents choisiront encore pour leurs enfants les établissements du secteur privé, laïque et confessionnel dans le cadre de la rentrée scolaire 2024. Et tout cela malgré le coût de plus en plus élevé de la pension. Le secteur privé, laïque et confessionnel offre une couverture nationale avérée et une offre d'enseignement très, très appréciée. Dans le cadre du processus de révision de la politique nationale de la jeunesse, initié par le gouvernement de la République, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, lance demain vendredi à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, les consultations nationales des jeunes après le lancement des consultations nationales le 12 août dernier à Yaoundé. En sport, le Cameroun décroche son ticket pour l'Afro Basketball Dame Côte d'Ivoire 2025. Les Lions ont encore battu hier la République démocratique du Congo à Kinshasa 67 à 50 après leur belle victoire à l'Ali à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, merci pour votre très aimable attention. Bonne journée sur la CRTV.